Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, désolé pour ce petit retard. L'application YouTube devait se remettre à jour. Est-ce qu'on est à l'endroit? Je ne pense pas, vu la photo que ça a pris, je ne pense pas que c'est rétabli. Le système, à vous de me dire, est-ce que je suis à l'endroit? Toujours à l'envers. Bon. Je ne sais plus quoi faire avec ce problème-là. Bon, écoutez, on va voir. On va voir, on va voir. Soit je mets la chatroom ailleurs et je me filme dans l'autre sens. Bon, je vais voir. Je vais y réfléchir, je vais y réfléchir. C'est pas trop grave, désolé, vous voyez l'heure à l'envers. Vous avez qu'à regarder avec un miroir. Voilà. Bon, allez, bonjour à tous. On va commencer comme d'habitude, comme traditionnellement, en remerciant nos tipeurs. Nos tipeurs du jour, c'est Salvator, c'est Touriles, c'est LB, Wasbone et Jérémy. Merci à eux, les contributeurs. Contributeurs sans qui nous ne serions pas là. Pensez aux contributeurs à vérifier vos cartes bleues pour le prélèvement. Ça arrive, hein, qu'une carte bleue arrive en fin de vie et il faut penser à la renouveler dans Tipeee. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tous ceux qui nous regardent en replay ou qui nous écoutent en replay. Bonjour aux nouveaux. Bonjour aux anciens. Bonjour à tout le monde. De quoi va-t-on parler ce matin? Alors, je sais qu'on est en pleine effervescence autour de l'E3. Pour être franc, il aurait fallu que je fasse une émission de 2 heures pour faire toutes les annonces qu'il y a eu à l'E3. Je préfère vous faire un résumé quand l'E3 sera fini. Surtout qu'honnêtement, je ne le suis pas trop cette année, l'E3. Je ne sais pas vous si vous suivez ça avec assiduité ou pas. Mais moi, j'avoue que là, j'ai peu de temps avec les travaux de l'atelier. Mes soirées sont prises, mes journées sont bien prises aussi. Et je suis pas trop les news, donc je voudrais pas. Je voulais pas vous faire des news où j'étais un peu paumé. On fera un résumé, je pense, à la fin de l'E3 sur les grosses annonces. Voilà. Donc il n'y a pas d'E3 ce matin dans le Techscope. Mais on va parler d'autres choses et de choses intéressantes, voire passionnantes. On va parler de la neutralité du net qui prend officiellement fin aux États-Unis. Mais est-ce la fin du combat? On va parler, alors, je sais, certains vont dire, Jérôme, c'est pas un sujet tech. Oui, mais c'est un sujet photo et c'est un sujet tech dans le sens fake news, interprétation des news. Bref, moi, en tout cas, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Vous avez, j'espère, mais sinon je la décrirai aux autres, tous vu la photo de Trump face à Angela Merkel hier. Ça a beaucoup, beaucoup buzzé sur Twitter. Ça a été interprété de diverses façons, d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique. Donc cette analyse de photo, est-ce que c'est une photo qui va devenir historique ou pas? Justement, c'est ça dont on parlera un petit peu. C'est une photo qui a été faite à la fin du G7, c'était hier, oui. On parlera également du Bitcoin, et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du Bitcoin, hein? Eh bien, le Bitcoin plonge après le hack de CoinRail. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'expliquerai. On parlera également, toujours dans le Bitcoin, l'Apple Store, l'App Store en tout cas, pas l'Apple Store, l'App Store officialise le ban du mining de crypto-monnaies dans les applications mobiles. Donc c'est officiel. On se souviendra de l'histoire de Calendar 2. On en reparlera tout à l'heure. On parlera également de Google Photos. Google Photos Joie, qui va vous laisser éditer les localisations de vos photos. Joie, joie, mais mise en garde que je vous ferai. Ça marche, mais ça marche pas si bien que ça. Je vous expliquerai pourquoi. Et on terminera l'émission par un adieu. Moi, j'avoue que j'en ai gros sur la patate. C'est un produit auquel je croyais, mais c'est un adieu au DxO One, l'appareil photo français, hein, puisque DxO est une société française. On sait que DxO est en difficulté financière. Ils décident de se concentrer sur leur produit software, plutôt, dont on parlera un petit peu, mais c'est l'abandon de l'appareil photo, le DxO One, que j'avais testé il y a 2 ans sur la chaîne et que j'utilisais encore. J'ai utilisé pendant mes dernières vacances. Donc, on en parlera un petit peu. Est-ce qu'ils vont, je le dis tout de suite parce que je sais qu'on va me poser la question, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter maintenant qu'il va être probablement bradé? Ils ont dit qu'ils allaient quand même faire les mises à jour pour qu'il fonctionne avec iOS. La version Android ne sortira pas. Faut voir à quel prix il tombe. Ça reste un excellent appareil photo, voire un collector. On en parlera en fin d'émission. Voilà, j'espère que vous allez bien. Il est déjà à 199€ à la Fnac. Ah ouais, ils l'ont vite baissé, ouais. Ouais, si vous cherchez un petit appareil pocket pour les vacances, 200€, bon, il faut quand même prendre conscience qu'il ne sera jamais mis à jour, mais il fonctionnera. Et ouais, il est vraiment pas mal. On en reparlera en fin d'émission, je vous propose. C'est mieux de pas spoiler les 3, j'ai pas encore vu le 1 et le 2. Oh, 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 oh là là, en forme dans la chatroom. Ah oui, la version Android, non, elle sortira pas finalement. Ils arrêtent le développement. Allez, on commence l'émission, on va parler de choses pas très drôles au début, et puis mais on va tâcher d'y mettre notre bonne humeur, hein, un petit peu de bonne humeur dans la tasse. Qu'est-ce qu'il y a, Bitcoin Nabila aurait-elle raison? On appellera notre spécialiste international financier Nabila. Hein? Oh. Allô? Non mais allô quoi? Au secours. Allez, on commence. On va parler de la neutralité du net qui prend officiellement fin aux États-Unis. Effectivement, le sauvetage dont on avait parlé de la neutralité du net a échoué. Donc depuis lundi, les règles protégeant ce principe des réseaux n'ont plus cours outre-Atlantique. Je vous rappelle qu'il y avait un principe qui protégeait la neutralité, qui protégeait plus que partiellement, bon bref, on ne va pas rentrer dans les détails, qui protégeait la neutralité du net aux États-Unis, a été radié effectivement par la nouvelle commission, la FCC. Désormais, les fournisseurs d'accès à Internet ont le champ libre pour concocter des abonnements dans lesquels l'accès aux ressources et le trafic seront discriminés selon divers critères et le montant que l'internaute est prêt à débourser. Donc, pour la faire simple, la rébellion, on sait que les États, c'était certains États rebellés, etc. En fait, cette rébellion a buté sur la Chambre des représentants, c'est ce qu'on avait dit un petit peu quand on en avait parlé il y a une semaine. Ils n'ont pas été assez soutenus à la Chambre des représentants et ça n'est pas passé. Donc, c'est bien l'arrêt, en fait, des principes qui protégeaient la neutralité du net aux États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup disent qu'il ne va pas se passer grand-chose au début, parce que les opérateurs américains ne vont certainement pas se précipiter dans la brèche ne se sont pas précipités dans la brèche hier, on n'a pas vu des offres rompant la neutralité du net, et ils ne sont pas prêts de les sortir, parce que beaucoup de FAI se sont un peu engagés en disant « Mais non, mais nous aussi, on aime bien la neutralité du net, on ne sait pas bien ce que c'est. » Non, en fait, comme ils savent que les internautes, il y a quand même un combat pour eux. Disons que ça va faire mauvaise presse s'ils sortent trop tôt des forfaits discriminants. Et quelque part, ils vont essayer de mettre en confiance. Ça va peut-être prendre des années. Mais le truc, c'est que ça va arriver. Ça va arriver, les premiers forfaits où « Ah bah tiens, tu vas avoir YouTube plus rapide sur ce forfait-là si tu payes un peu plus. » Ou plutôt, à mon avis, ça sera plutôt vous avez un forfait d'entrée de gamme vraiment pas cher. Par contre, bon, vous pouvez pas avoir pour ce prix-là un YouTube aussi rapide que les autres. Ou vos mails arriveront prioritairement, mais pas quand vous regardez les sites web. Enfin, je vous schématise, mais c'est un petit peu ça, de rompre la neutralité du net, c'est discriminer le contenu selon ce qui est le plus intéressant pour le fournisseur d'accès. Et effectivement, la tentation va être très grande de sortir des comptes premium. Premium, full accès Internet, full accès rapide à Internet. Et après, tu auras le prix entrée de gamme, full accès Internet, gros astérisque. À vos risques et périls, ça risque d'être très lent sur tous les trucs qu'on a ralentis. Oui, mais il y a une différence, Crapoto, la limite de débit sur YouTube, c'est... Alors, je sais que ça peut être compliqué à comprendre, même moi, je ne comprends pas tout. Entre Free et YouTube, c'est parce qu'il n'y a pas d'accord de peering. C'est qu'en fait, quand un opérateur doit faire des accords de peering avec les grandes plateformes. Ça, c'est des principes techniques qui n'ont rien à voir avec, finalement, une discrimination du contenu. Discrimination du contenu, c'est by design, par le design, de dire tel contenu va être plus lent ou surtout plus rapide qu'un autre. Dans le cas de Free, c'est pas ce qui se passe. C'est que Free refuse de payer pour que YouTube ait le même débit que sur les autres opérateurs par des accords de peering. Free maintient ses prix comme il peut, on va dire. Le peering, c'est pas neutre non plus. Non, mais là, justement, moi, je suis pas assez spécialiste pour vous dire les différences. C'est aussi effectivement discriminant pour l'utilisateur final, finalement. Mais d'après ce qu'on m'avait expliqué, c'est quand même pas le même problème. Ok, quelles seront les conséquences pour nous en Europe ? Bah, très peu, parce que nous, on a des règles qui vont permettre de protéger la neutralité du net. Un opérateur en Europe, en tout cas jusqu'à preuve de contraire, ne peut pas designer des forfaits discriminants. Mais néanmoins, ça risque quand même d'avoir une conséquence. C'est ce que je répète. Un des grands dangers de la perte de la neutralité du net, c'est de favoriser certaines plateformes par rapport à d'autres. On va prendre l'exemple, effectivement, du contenu type YouTube, type vidéo sur le web. D'avoir des facteurs discriminants empêchera des startups de se lancer sur le marché, parce que YouTube sera favorisé par rapport à eux, par exemple. Parce que tel ou tel forfait trouvera ça beaucoup plus rentable de favoriser YouTube et pas de favoriser ses petits compétiteurs. Et ça aura des conséquences pour nous, parce que ça veut dire que des startups aux États-Unis n'auront peut-être pas l'opportunité de se lancer avec les mêmes conditions que les leaders du marché. C'est un petit peu, alors j'essaye de trouver une analogie, mais c'est un petit peu, si on disait, pour le trafic de marchandises, que les autoroutes soient réservées aux plus grands routiers, qui ont déjà plein de camions, et qui empêcheraient justement l'émergence d'une nouvelle entreprise avec des camions, parce que eux, ils pourraient pas rouler aussi vite sur les routes, par exemple. Voilà. Je schématise un peu, mais c'est un peu ce qui risque de se passer. Donc, directement, ça n'aura pas de conséquences pour nous. Nous, la neutralité du net, elle est gardée en Europe, mais ça aura des conséquences sur le marché, en fait, et des startups, quoi. Vivement qu'elles viennent en France, ouais. En tant que vidéaste, tu serais prêt à quitter YouTube pour une petite alternative startup ? Bah, ça dépend. On nous en propose tout le temps, hein, des alternatives à YouTube. Il y a plein de trucs qui essayent de se monter. Le problème, c'est effectivement, c'est pas tellement moi, c'est plutôt vous. Est-ce que vous suivriez si on migrait ailleurs ? C'est là la question, c'est là la vraie question. Aujourd'hui, non, et pour moi, il n'y a pas d'alternative à YouTube offrant une aussi grande visibilité. Il y en a qui offriraient des revenus publicitaires bien plus intéressants que ceux de YouTube, mais avec tellement peu de monde dessus. Moi, ce que je dis beaucoup en ce moment, c'est que le seul qui pourrait... Ça serait pas une start-up, mais le seul qui pourrait vraiment rentrer en vraie compétition avec YouTube, c'est Amazon. c'est Amazon avec Twitch. S'ils redesignaient un petit peu Twitch pour que ça ressemble un peu plus à YouTube, et quelque part, ils sont en train d'arriver là-dessus. Moi, je pense qu'on aura une alternative à YouTube par... Mais après, rien n'empêche, quand je vous dis une start-up peut avoir une idée de génie, trouver un moyen pour que les vidéos passent vachement mieux et qu'il y ait un engouement pour cette start-up. Quelque part, aujourd'hui, on a un peu l'impression que tout a été fait sur Internet, mais tout reste à inventer. Et justement, il faut laisser de la place aux arbustes. Le Peertube, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les masses d'audience sur le Peertube sont extrêmement faibles. Donc, tu peux toujours y amener tes émissions. Moi, à la limite, si j'avais le temps, je mettrais bien les émissions sur d'autres plateformes. Après, il y a la question de temps d'upload qui au prorata du nombre de vues. Mais pour l'instant, personne n'y va sur ces plateformes-là, où il y a très très peu de monde. Ah, c'est sûr que l'hébergement de vidéos, ce n'est pas un business rentable, ça c'est sûr. Ça coûte extrêmement cher. Bref, est-ce que le combat est terminé pour les États-Unis pour la neutralité du net? Non. Des avocats fourbissent et des associations fourbissent déjà leurs armes. Ils sont prêts effectivement à repartir au combat. ça va être plus compliqué parce que les choses sont actées, mais aucune loi n'est inscrite dans le marbre non plus. Aucun président ne peut rester plus de 10 ans aux États-Unis. Pourvu que ça soit 5 ans, mais bon, ça, c'est un avis personnel. Donc, les choses peuvent changer encore. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est foutu pour la neutralité du net aux États-Unis. Il faut savoir quand même que les géants du net, Google et tout ça, sont quand même vent debout contre la neutralité du net, n'en veulent pas. Donc, pourquoi pas, effectivement, s'installer ailleurs dans le monde pour contourner. Pas si facile. Oui, Troll and the Nart, on avait essayé hein, d'héberger nos vidéos nous-mêmes à l'époque de No Watch. Bonjour les frais de bande passante. C'est le paradoxe de la vidéo sur Internet quand tu la diffuses toi-même. Plus t'as de succès, plus ça te coûte cher et plus tu coules. Je résume très succinctement l'aventure No Watch, ça a été ça, quoi. Plus vous étiez nombreux à regarder No Watch, plus la facture devenait lourde et on n'avait pas vraiment de business model qui tenait la route. Non, c'est très difficile. La bande passante étant quand même le vrai coup. Tu peux mettre ça sur des box, etc. On avait étudié hein, à l'époque des systèmes avec le peer-to-peer, machin. Le seul problème, c'est que du coup, les émissions se retrouvaient un petit peu dans la nature avec aucun moyen de comptabiliser les vues. Donc, quelque part, on n'avait rien à vendre. On n'avait pas d'inventaire publicitaire si nos vues n'étaient pas comptées. C'était des problèmes très complexes. On avait exploré beaucoup de choses, mais dites-vous bien que si les autres ne le font pas, c'est bien qu'il y a une raison. On peut, hein, on peut diffuser des vidéos soi-même et des entreprises le font pour des raisons de sécurité. Mais ça coûte cher de diffuser des émissions soi-même. Et si beaucoup de gens vous regardent, ça coûte très très cher, en fait. Plus il y a de gens, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai compris de la bande passante, mais la bande passante, ce n'est pas tant une question de volume, de grosseur de tuyau, mais plutôt ce qui coûte cher, c'est l'élasticité du tuyau. C'est-à-dire que si beaucoup de monde regarde un même contenu en même temps, il faut que le tuyau puisse s'adapter très vite, et c'est cette élasticité qui coûte extrêmement cher. Mais vraiment extrêmement cher. Et c'est pour ça, ceux qui ont connu l'époque No Watch, on avait des problèmes de diffusion à la fin. Vous n'arriviez pas à télécharger les émissions, etc. Parce que nous, on n'avait pas de quoi se payer l'élasticité de la bande passante requise. Oui, il y a les deux. Mais ce qui coûte le plus cher, c'est cette élasticité. Trop de succès, bah, c'est le paradoxe. Dans d'autres médias, plus tu as du succès, plus en théorie ça te rapporte. Sur Internet, plus tu as de succès, plus ça te coûte cher de diffuser. Mais le podcast, c'était exactement le même problème. les gens téléchargeaient, c'était même pire que le streaming. Faut pas oublier que le podcast, c'est pas Apple qui héberge nos émissions. Il faut un serveur, et tu payes le serveur et ta bande passante. C'est bien pour ça que même Geeking, il a pas tenu les émissions, des podcasts en vidéo, il y en a plus. Ça coûte trop cher à diffuser. Ça coûte beaucoup trop cher à diffuser. Le podcast aujourd'hui, l'émission téléchargeable ne vaut qu'en audio. Hein. Il doit encore y avoir quelques podcasts vidéo, mais enfin, ça ne doit pas courir les rues. Hein. Donc, tout ça pour terminer, parce que je sais que pour vous, parfois, c'est difficile à comprendre, mais donc plus tu as de succès sur Internet quand tu fais du média, plus ça te coûte cher. Donc, si tu n'as pas mis en place un bon business model qui te permet au moins d'amortir le coût de diffusion, tu es mal. Tu es très vite mal. Voilà, j'espère vous avoir expliqué un petit peu les difficultés de la diffusion sur Internet. Bref, on revient sur la neutralité du net. On espère quand même pour les États-Unis que les choses reviendront, iront vers la neutralité. Nous, en tout cas, on est plutôt contents pour le coup d'être en Europe et d'avoir une neutralité du net pour l'instant relativement protégée. Allez, on continue, on va parler de la fameuse photo d'hier. Alors, je vais la montrer pour ceux qui ne l'auraient pas vue hier. Oui, je veux passer en mode tablette. Yep. Voilà, c'est cette photo-ci qui a été très largement diffusée hier. Vous savez, c'était le G7 et qu'on voyait cette photo avec Croisé et Angela Merkel penchée sur une table, debout, penchée sur une table, qui s'avance vers lui. D'autres présidents, on voit très légèrement Macron sur le côté. D'ailleurs, Donald Trump regarde plutôt Macron que Merkel hein, sur cette photo. On voit le premier ministre japonais, dont j'ai oublié le nom. Enfin bref, on voit pas mal de chefs d'État. Et cette photo peut laisser à plusieurs interprétations. C'est la photo iconique du G7. Pour rappel quand même des faits, le G7 a été houleux. Effectivement, c'est des négociations commerciales très houleuses, notamment, effectivement, entre les États-Unis et un peu le reste du monde. Il n'y a pas eu que ça comme truc houleux, si on lit dans le détail. Mais bon, bref, on ne va pas faire compliqué. Et qu'un accord a été obtenu avec beaucoup de peine à la fin du G7. Et que finalement, Donald Trump a décidé de revenir et de retirer la signature des États-Unis de cet accord, disant effectivement que Justin Trudeau, c'est un premier ministre au Canada, tant que je ne me trompe pas. C'est un premier ministre, oui, au Canada, je crois. Ou un président. Non, c'est un premier ministre. Il y a des Québécois dans la salle? C'est premier ministre. Oui, c'est un premier ministre. A fait effectivement une phrase qui, reconnaissons-le, n'était peut-être pas très habile quand même. La phrase de Justin Trudeau parlant effectivement qu'il trouvait que les accords n'étaient pas génial et que les États-Unis, du coup, Donald Trump a fait « Ah ouais, c'est ça ? Eh ben, je vous emmerde tous, fuck you. Je retire la signature de tous les accords qu'on avait faits. » Bref, week-end gâché. Hein. Angela Merkel assez furax. Alors Angela Merkel furax, ça donne pas grand chose, parce que c'est pas quelqu'un d'extrêmement expressif, mais quand elle dit que les tweets de Donald Trump sont inconfortables, ou un truc comme ça, qu'est-ce qu'elle a dit? On sent la retenue hein, quand même chez Angela Merkel. Bref, je retrouve pas le mot. Vous vous souvenez de ce qu'elle a dit des tweets de Donald Trump? Bref, tout ça pour dire, on va revenir sur la photo. Tout ça pour dire que cette photo est peu prêtée à diverses interprétations. Merci RP, j'ai averti en début d'émission que c'était un sujet plus photo qu'un sujet tech. Mais c'est quand même de la tech puisqu'on est dans la fake news et l'interprétation des photos. Et si le sujet ne t'intéresse pas, je t'invite à aller faire un petit tour dehors pour prendre l'air et revenir ensuite pour le sujet suivant. moi, je trouve que c'est un sujet intéressant parce que justement, dans un monde où Twitter dispense des images, je vous conseille déjà d'aller voir. Il y a 4 photos différentes qui ont été faites. Et selon l'angle de ces photos, on peut avoir une interprétation complètement différente. Salut Rémi, complètement différente de la scène. Il y a des photos où Trump a l'air dans des positions plus dominantes que d'autres. Il y en a une où il sourit et Angela Merkel rigole. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'interprétations différentes. Le fait est que l'histoire va probablement retenir celle-ci de photos et pas d'autres. Et vu du côté allemand, la position, je vais mieux vous montrer, la position d'Angela Merkel est plus une position voilà, de force. Elle est debout, elle s'appuie fermement sur la table, elle impose son point de vue, et on a un Donald Trump assis, les bras croisés, qui est un signe de protection, boudeur. Alors, vous avez vu les détournements sur Twitter. Effectivement, il y a eu pas mal de détournements et de mèmes qui ont été faits. Oui, c'est de la tech, on est en train de parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Si vous voulez parler que de boutons et de trucs qui font bip bip, vous n'êtes pas sur la bonne émission. Désolé, mais on a quelques trolls ce matin. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc voilà, vu d'un point de vue de certains aux États-Unis, bah, c'est plutôt Donald Trump qui est en position de force, parce que assis les bras croisés avec tous les autres suppliants autour de lui. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, c'est effectivement une image forte, une image symbolique, et c'est très intéressant de voir comment les réseaux sociaux s'en emparent, l'interprètent, et comment une image peut marquer aussi l'histoire. Vous n'êtes pas sans vous rappeler des études que vous avez faites à l'école, les livres d'histoire, où on vous parle des photos de Yalta, de la conférence de Yalta, et où chaque position et chaque attitude d'hommes et de femmes qui sont dessus donne effectivement finalement un pli à l'histoire, et c'est quand même assez intéressant. Mais justement, moi je vous invite vraiment à voir, pour votre ouverture d'esprit, c'est d'aller voir la série de photos. Il y a d'autres photographes qui ont fait des photos au même moment, et à quel point d'autres photos peuvent donner une interprétation complètement différente. Il y en a une, je vous dis, ça a dû être pris peut-être une seconde plus tard, où Angela Merkel rigole et Donald Trump rigole. Ça n'aurait pas du tout donné la même interprétation. Et c'est en ça, et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet, c'est que c'est bien hein, d'avoir des photos iconiques. Mais elles sont là pour illustrer généralement des points de vue et des propos. Une photo ne montre pas la réalité d'une situation, parce qu'à une microseconde près, vous pouvez avoir une réalité complètement différente. Donc, ce n'est pas une mise en garde. On a besoin de ces photos iconiques parce qu'elles marquent l'histoire. Et cette photo va probablement être utilisée pour marquer « on est ». Je ne veux pas prendre d'opinion, je ne veux pas parler de politique internationale, ce n'est pas le rôle de cette émission. Mais on est probablement un tournant des relations atlantistes. Donc, pour vous, de savoir que cette photo n'est qu'un moment, en fait, et qu'il y a eu d'autres secondes autour de ce moment, mais qu'elle est illustrative, probablement, du futur des relations occidentales, et quelque chose d'intéressant. Moi, je trouve ça super passionnant, même. Cette photo montre l'esprit du G7 tel qu'on veut bien nous le montrer aussi. C'est ça que je veux dire. Ben, à la fois, effectivement, vous pouvez vous dire, mais du coup, où est la vérité? La vérité est ailleurs, on est en plein X-Files. Mais justement, on vit dans un monde formidable. Pensez que nos grands-parents, même nos parents, justement, ils ne voyaient qu'un cliché, ils ne voyaient que ce que la presse diffusait. Aujourd'hui, alors ça peut paraître beaucoup plus complexe, le monde peut paraître beaucoup plus complexe, il n'est pas plus complexe, mais nous, les petits kidam, on est beaucoup plus informés, on a accès à d'autres points de vue, on a accès à d'autres photos, et ça nous permet de mieux faire notre opinion, pour peu qu'on se donne la peine de ne pas être écrasé par par exemple, cette photo, ça va être la plus diffusée, donc c'est celle qui va être retenue. Mais vous, vous aurez vu les autres. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que, malgré ce qu'on peut dire, on vit une époque formidable, justement, pour l'information. Pas plus complexe, mais plus complet. C'est bien dit, Pascal, c'est exactement ça. On se fait manipuler, mais je te garantis qu'on se fait moins manipuler qu'avant. Moi, j'en suis persuadé. Autrefois, tu sais, n'oublions pas qu'il y a, il y a même pas 50 ans en France, c'était l'ORTF. C'était l'État qui contrôlait les médias, la presse. Et... Alors oui, ça existe toujours, les influences d'État sur notre information. Mais aujourd'hui, on a quand même plus de moyens de s'informer. Mais il faut se donner la peine et pas être flemmard et pas juste s'accrocher aux lieux communs et ce que les grands tuyaux nous diffusent, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vois que ça a déclenché, ça vous réveille, hein, ce genre de sujet. Hein. Vous êtes pas forcément d'accord, il y a des débats, mais c'est bien, ça vous réveille. Je vais appeler ça les sujets caféine. Ou théine. Les Français parlent au français. En tout cas, bon, voilà, c'est... Moi aussi, hein, je trouve qu'on vit dans un drôle de monde, hein, de voir des relations et des amitiés de pays chahutés, il n'y a pas d'autre mot. Après, on ne connaît pas les tenants, les aboutissants. Je vous rappelle quand même que Donald Trump, aujourd'hui, a une visite très importante avec un ennemi historique et que, finalement, de mettre une petite taloche à ses amis en disant « c'est pas parce que c'est mes amis que je ne suis pas fort », c'est une manière de gonfler ses muscles avant d'aller voir un adversaire. Donc, je ne sais pas si Trump, c'est un calcul de sa part, mais effectivement, de dire à ses amis et à ses alliés, « Les gars, vous êtes bien gentils, mais vous me faites un peu chier. » Donc, une petite taloche derrière les oreilles. C'est une manière aussi de dire, « T'as vu, je ne me laisse pas influencer. Hein. » C'est... Bon... Jérôme, arrête, tu vas donner ton opinion. La photo sera simple, grande poignée de main. Bah, on l'a déjà, la photo avec Kim. Bref, allez, on va pas partir. Là, on me demande quel était le sujet du G7 et tout. Hein. Après, là, pour le coup, on va sortir de la tech. Mais je le rappelle, c'était un sujet concernant l'information sur les réseaux sociaux telle qu'elle est diffusée, ce qui, pour moi, rentre dans la définition des sujets tech. Hein ? On soit bien tous d'accord là-dessus. On continue, on va parler du Bitcoin, j'espère que ça vous fait plaisir. Bitcoin, mon amour. Rémi, il a vu Bitcoin dans le sommaire et il a fait « Ah, c'est pour moi, ça !» Non, c'est vrai qu'on avait tendance à l'oublier un peu, le Bitcoin dont on parlait tous les jours, il n'y a pas si longtemps. On n'entend plus trop parler. Ça yoyote, il vit sa vie. Je parle du Bitcoin, mais je parle des crypto-monnaies dans leur ensemble. Ça va, hein, globalement, n'oublions pas quand même, parce que là, on va parler d'une baisse du Bitcoin, mais ça reste très très haut par rapport à ce que c'était il y a encore un an. Hein, non, il y a encore 2 ans plutôt, si je ne me trompe pas, parce que là, ça a quand même baissé depuis un an. Hier, il y a eu effectivement un plongeon assez important. Je ne sais pas où il en est ce matin, mais hier, il se négocie à $6,765, donc une baisse de 7,11% à 8 heures du soir, je crois. Donc une baisse de 50% depuis le début de l'année sur le Bitcoin. Je vous rappelle que à son plus haut historique, il était à $20,000, effectivement. Enfin, il avait flirté avec les $20,000. Mais je vous rappelle aussi que c'est avant, il flirtait avec beaucoup moins que ça. Donc, tout dépend. Ceux qui ont acheté à 20 000 €, c'est sûr que là, oulala. Faut tenir, hein, mais c'est dur. Hein. Pouf, dur. Je vous rappelle, hein, avant de dire « Ah, il y a des milliardaires, ah, il y a des pauvres », t'as rien perdu, t'as rien gagné tant que t'as pas vendu. C'est le moment d'acheter... Je vous dirai rien là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Eh ben, en fait, CoinRail a déraillé. Rail déraille. Non, ils se sont fait pirater ce week-end. Ça a entraîné une vente massive de Bitcoin. Le piratage a causé une perte d'environ 30% des pièces échangées sur la plateforme. 50K fin 2019. Retenez bien cette phrase, Rémi. Rémi, tu es libre de tes propos, mais n'oublie pas que tu en es responsable aussi. Je ne cautionne rien, je ne dis rien, moi, sur les crypto-monnaies, ça regarde les gens de manière personnelle. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent, mais je ne veux pas en être responsable. Je peux influencer le marché, non, c'est pas ça, mais... autant je fais des tests de produits en vous disant de dépenser votre argent en achetant des appareils photo, etc. Ça, j'en suis conscient. Autant tout ce qui est épargne, tout ce qui est votre patrimoine, je veux rien à faire, avoir, je veux rien avoir avec. J'arriverai pas à dire la phrase. C'est votre problème. Voilà. C'est strictement personnel. Et c'est de l'argent. Je ne veux absolument pas en être responsable en vous donnant des conseils dans un sens comme dans l'autre. Après, je peux vous dire ce que moi, je fais de mon patrimoine. Après, vous êtes libre d'écouter ou pas. Mais bref, on revient quand même sur le Bitcoin. Donc, l'estimation, c'est qu'il y aura une perte de pas loin de 40 millions de dollars quand même qui auraient été volés par ce hack. Donc ça fait des sommes assez importantes, surtout que c'est quand même une longue succession hein, de problèmes. Le hack de CoinRail est juste le dernier des nombreuses cyberattaques sur les crypto-monnaies. Plus tôt cette année, CoinCheck a été piraté avec plus d'un 2000 milliards de dollars de crypto-monnaies volées. En juillet 2017, les données de près de 32 000 utilisateurs ont été compromises, ce qui a permis aux pirates de transférer les pièces sur une plateforme d'échange numérique, le Bitum. En décembre, Ubit a perdu 4000 bitcoins, soit 17% de ses actifs. Et rappelons le fait historique, en 2014, Mt. Gox a déclaré faillite après avoir perdu un demi-milliard de dollars de bitcoins. Alors attention, je ne suis pas en train de vous faire comme les titres de la vieille presse. Le bitcoin, les crypto-monnaies, c'est dangereux, il y a des pirates, oh là là. Juste, il faut quand même informer dans un sens comme dans l'autre. Ça attire énormément, effectivement, les hackers, des gens malveillants. Pour l'instant, les protections autour des crypto-monnaies sont ce qu'elles sont. On voit effectivement que des sites qui gèrent des crypto-monnaies ne sont pas toujours très sérieux. Donc, attention. Informez-vous, réinformez-vous, surinformez-vous avant de faire un quelconque investissement. Mettez pas tous vos œufs non plus dans le même panier quand c'est possible. Mais aujourd'hui, c'est un fait. Ces plateformes d'échange ne sont pas des lieux extrêmement sûrs, quoi. Et je le redis comme chaque fois que je parle de crypto-monnaie, de Bitcoin, c'est des investissements à haut risque. N'y mettez pas de l'argent dont vous avez besoin. Voilà. Je peux que vous donner ce conseil-là. N'y mettez pas de l'argent dont vous avez besoin, votre patrimoine dont vous avez besoin pour acheter une maison ou votre truc de sécurité les choses se passent mal, etc. Les tapis de sécurité, n'investissez pas ça. À la limite, voilà. Vous pouvez prendre des euros qui vous restent sur votre compte et puis investir. Vous pouvez vous amuser à investir, mais attention quand même. Ne pas faire un truc que Homer Simpson ferait. Le jour où Homer Simpson achète des bitcoins, ça veut dire qu'il faut les vendre. Et moi, je suis déjà content qu'on en parle moins. Et ne croyez pas, c'est pas parce que j'ai pas investi dans les crypto-monnaies que ça m'intéresse pas, loin de là. Mais je regarde du coin de l'œil et moins on s'en intéressera, plus je m'y intéresserai. Mais ça, c'est moi. J'ai toujours acheté en phase de crise, j'ai toujours acheté quand les choses dégringolent, mais dégringolent méchants. Toujours ça qui n'ira pas dans les bitcoins. Merci pour ton super chat, Philippe. Merci, merci. Désastre écologique. Ouais, c'est pas le sujet de ce matin, mais on sait effectivement que le minage des cryptos, c'est aussi quand même un gros coût énergétique. Et j'ai raté plusieurs super chats, merde. Alors, attends, je vais voir si je les vois. Ah, j'avais raté Elbinon. Merci beaucoup pour garder ton identité secrète d'espion coréen. Merci pour ton super chat, Elbinon. Je reviens sur la chatroom normale. Hop. Donc, sujet suivant, effectivement, lié quand même à celui-ci, c'est que Apple a décidé de ban de l'App Store les applications qui permettent de faire du minage de crypto-monnaie. Donc maintenant, c'est écrit noir sur blanc. Mining apps may not, mining apps may not mine for cryptocurrencies unless the processing is performed off-device. Donc ça veut vraiment dire une application n'a pas le droit d'utiliser les ressources du device du téléphone ou de la tablette pour faire du mining, à moins que ce mining soit déporté sur une solution cloud, donc à distance, utilisant d'autres procédés. Mais d'une manière générale, Apple n'a fait que renforcer la règle pour les apps, qui est que les développeurs d'app doivent faire des applications qui consomment le moins possible d'énergie et le moins de ressources, en fait, du processeur. Donc, on le sait, hein, un truc qui minerait en permanence sur votre smartphone réduirait la durée de vie des batteries, réduirait les batteries, l'usure du smartphone, le ferait peut-être chauffer en permanence. Enfin, ce n'est pas des choses à faire sur un smartphone, à mon avis. Hein. Après, je ne sais pas si c'est interdit sur Android. Donc, il y a peut-être des trucs de minage. Mais bon... Je m'y connais pas beaucoup en minage, mais c'est pas avec la puissance d'un smartphone que vous arriverez vraiment à miner quelque chose d'intéressant. Il faut quand même de très grosses ressources aujourd'hui pour que le minage devienne rentable. Donc ça fait suite effectivement à certaines apps et notamment Calendar 2. Salut Pascal. Calendar 2, qui était une application de calendrier qui vous débloquait le premium. Si vous acceptiez de laisser miner des cryptos pour eux, en fait, ça, c'était un truc, pas mal d'app pensaient à ça. C'est pas tellement vous permettre, vous, de miner, mais c'est plutôt de vous offrir des services premium en échange de votre puissance informatique. Oui, je sais que... Oui. Je regarde Silicon Valley aussi, hein. Je sais que ce qui les intéresse, c'est d'avoir une nuée de processeurs de smartphones pour avoir une grosse puissance de calcul. Mais justement, avant, je parlais d'un point de vue individuel. Vous installez une app pour miner avec votre processeur, c'est pas intéressant. Par contre, un développeur d'app qui développe une app qui peut utiliser la puissance de tous les smartphones où son app est installée pour pouvoir miner, c'est carrément intéressant. Parce que c'est pas lui qui va payer l'énergie. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui veulent miner sur Shadow. C'est trop cool. C'est Shadow qui payera la facture d'électricité. Individuellement, oui, ça vaut pas du tout le coup. Bref, donc c'est interdit sur iOS. À savoir que, en tout cas, la règle ne s'applique pas à macOS. Donc, on peut continuer à miner sur un ordinateur, hein, sur... chez Mac. C'était mieux dans les années 80 avec le Club Dorothée quand Bernard minait. Tu pioches. Oh là 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 là. Ya ya ya, la chatroom. Vous êtes pire que moi. En tout cas, on ne peut plus le faire sur son smartphone. On enchaîne, on va parler de Google Photos. Blanche-Neige et les 7 crypto-nains. Vous êtes joli, ça. C'est mignon, Pascal. J'imagine les petits nains. Ce qui d'ailleurs était les... C'est pas un chant nazi, ça, à l'origine. Dans Blanche-Neige, il n'y a pas des chants nazis. Bon, Jérôme est en train de partir dans les graviers. On revient, on va parler de Google Photos. Mais il me semble peut-être, ou un chant allemand, c'est R. I-A-O, là. Pas un truc comme ça. Focus. Oui, merci. Merci de me ramener dans le droit chemin. Vu que c'est un film américain... théorie du complot. Les nazis n'auraient-ils pas financé Blanche-Neige? Hein? Je vous le demande. On vous le dit pas, peut-être. Et Nabila n'est-elle pas au cœur de ce complot? Bref. On revient sur Google Photos. Un peu de sérieux, Jérôme. Google Photos, combien d'entre vous utilisent Google Photos? Qui utilise Google Photos? Mais vraiment. Pas « Ah ouais, j'utilise un peu ». Qui utilise vraiment Google Photos? Samuel? Yes? Moi, plus un. Ah ouais, quand même, il y a du monde. Hein. J'utilise, j'ai arrêté. Pas surtout pour sauvegarder mes photos, pas moi. Non. Pas moi. Ça existe encore? Oui, ça cartonne Google Photos. Mais pas pour la documentation graphique, d'accord. Bon, en fait, sachez que Google Photos, il y a une nouveauté qui arrive qui peut paraître super intéressante. C'est que maintenant, vous allez pouvoir éditer la géolocalisation de vos photos. Donc, toutes vos vieilles photos qui n'avaient pas de géolocalisation ou celles qui ont une mauvaise géolocalisation, vous allez pouvoir changer cette localisation pour bien avoir sur la carte du monde les endroits où vous avez passé vos vacances. Là, vous dites, c'est chouette, parce que c'est vrai que jusqu'ici, pour changer la géoloc de ces trucs, fallait des applications qui permettent d'éditer les exifs, et c'était assez fastidieux à faire, les réimporter ensuite pour avoir les données. C'est une très bonne idée, sauf que non, en fait, c'est pas un vrai éditeur d'exifs qu'ils ont mis dans Google Photos. Vous pourrez éditer la localisation, mais ça ne s'inscrit pas du tout dans le fichier. Donc, si vous exportez cette photo ensuite de Google Photos pour ailleurs, elle n'aura pas enregistré la donnée de la localisation que vous aurez donnée à cette photo reste sur Google Photos. N'est pas partageable et n'est pas inscrit dans le fichier. Du coup, moi, je trouve que l'intérêt est très limité parce que j'ai pas envie de passer des heures à éditer mes photos sur Google Photos et dans 10 ans, peut-être, me dire « bah j'ai plutôt envie de migrer sur Venus 3D Photo, qui est le nouveau service à la mode dans la réalité augmentée après la Troisième Guerre mondiale post-apocalyptique. J'anticipe un peu hein, ce qui va arriver dans les 10 années à venir. Et que j'aurai envie de migrer. Et tout le boulot et tout le temps que j'aurais passé à mettre des étiquettes sur mes photos de localisation, ben, c'est du boulot perdu. Hein ? Eh oui, t'as compris. Du coup, ça bloque les gens dans Google Photos, ce que je ne veux pas. Donc, voilà, ça peut en intéresser certains. Il fallait que je vous fasse passer l'info, mais je voulais aussi vous avertir que ce n'est en aucun cas un éditeur d'exif. T'as désactivé la géolocalisation de tes photos. Oh, moi, j'aime bien pour les photos de vacances. Après, j'aimerais bien un truc. En fait, moi, j'ai une application de photos dans laquelle j'ai enlevé la géolocalisation quand je veux faire des photos sans enregistrer l'endroit où je suis. Donc, moi, je joue avec différentes apps. J'ai l'application, voilà, j'ai 2-3 applications photos qui vont géotaguer mes photos, mais j'en ai une, je sais même plus laquelle, je crois que c'est la Caméra Plus où j'ai enlevé le géotag. Voilà, si j'ai envie de faire une photo de ma bistouquette sur les falaises d'Étretat, c'est mon problème. J'ai pas forcément envie que vous sachiez où je suis et si je diffuse cette photo. Bon, vous me direz, il y a Étretat derrière, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Désolé,
J'ai une vision de moi en haut des falaises, dans le vent, en train de faire le drapeau.
Désolé, hein, je pars, je déraille complètement. On n'a surtout pas envie de la voir, ta photo. C'est pas un pic, c'est une péninsule. Google Lens a nié, on en a parlé, c'est la semaine dernière. Moi, je sais pas, j'ai plus d'Android en ce moment. Donc, c'est dispo. Je crois que c'est dispo en France hein, pour ceux qui ont Android, Google Lens. Bon, bref, allez, on revient. Redevenons un petit peu sérieux. Quelle heure est-il? Oui, il est l'heure de redevenir sérieux. Surtout que le sujet qu'on va aborder maintenant est un petit peu triste. C'est vrai que c'est un test que je vous avais fait sur la chaîne il y a 2 ans. Un produit qui, malgré ses défauts, était quand même extrêmement prometteur. Je veux parler, bien sûr, du DXO1, le tout petit appareil photo. Tenez, yep, je l'ai dans mon sac. Vous voyez, je l'ai toujours dans mon sac, ce petit appareil photo. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, il faut aller voir mon test donc d'il y a 2 ans. Le DXO1, où est-ce que je l'ai foutu? Ah mais non, je ne l'ai pas là, je suis con. Ah oui, non, je ne l'ai pas là. J'ai les accessoires là, mais je l'ai enlevé l'autre jour, justement parce que je filmais autre chose. Bon, bref, je ne vais pas pouvoir le montrer. Mais le DXO1, vous vous souvenez, c'est ce petit appareil photo qu'on pouvait mettre sur son smartphone, sur son iPhone, avec la prise Lightning, qui offrait des qualités optiques vraiment... ça n'avait rien à voir, pour ceux qui me demandaient, ça n'a rien à voir avec ajouter une optique sur son smartphone. Là, ça avait une optique et un capteur d'un pouce. Non, c'était pas sur Android, justement. Avec un capteur d'un pouce et qui permettait vraiment une qualité photo bien bien supérieure à ce qu'on pouvait faire avec un smartphone. Le DXO1 était devenu encore plus intéressant depuis qu'il l'avait rendu autonome. On pouvait lutter, voilà, c'était un mini RX100 quelque part. Non, t'avais pas, arrête. Tu avais pas les logiciels sur Android, donc tu ne pouvais pas l'utiliser sur Android. Le DXO1. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est effectivement un produit qui a raté son public. C'était un produit qui avait un positionnement prix assez cher. Hein. Au début, il n'était pas loin de 600 euros. Après, ça avait réduit vers les 400 euros. Mais au début, il était très, très cher. Ce qui, finalement... Attends, tu l'as en USB-C? Ils l'ont pas sorti, justement, en USB-C. Ils l'ont pas sorti. Ou alors, tu as eu un proto. Hein. Moi, je les ai vus au salon de la photo. Ils étaient en train de le mettre au point. Ah oui, l'Early Access. Oui, bon. Mais il a été distribué, l'Early Access? Il me semble que non, hein. Enfin bref, on s'en fout, à la limite, c'est juste... il ne sortira pas officiellement donc sur Android. Bref, le DXO1, c'est fini. Effectivement, on sait que DXO va très mal et qu'ils sont en redressement judiciaire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont finis, hein, mais il faut qu'ils se concentrent effectivement sur leurs produits. Leurs produits aujourd'hui sont le Photolabs, qui est un concurrent de Photoshop, qui est pas mal du tout. Si vous cherchez une alternative sans abonnement à Photoshop, il faut aller voir le produit DXO1. Ils ont également racheté à Google l'année dernière la Nik Collection, qui a un certain nombre de filtres, enfin des trucs qui peuvent fonctionner avec Lightroom. Il y a un truc pour ajuster les couleurs, il y a un truc pour travailler les photos en noir et blanc, il y a un truc pour les rendus argentiques, pour corriger les couleurs, pour améliorer la netteté, les détails, pour le bruit numérique, pour créer des rendus HDR. Ça, c'est la Nik Collection qu'ils ont racheté l'année dernière. Et ça y est, ils viennent de la ressortir, Nik Collection by DxO. Donc, ils ont quand même des produits. Hein. Ils restent sur le marché, mais le DxO One est abandonné. Alors, je sais, j'ai vu, hein, Pascal, que tu avais posé la question. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter, de l'acheter à 200€ à la Fnac? J'ai envie de dire, si vous êtes un fan de photos, ils vont quand même faire les mises à jour de sécurité. En tout cas, ils l'ont dit. Le produit est abandonné, mais a priori, ils vont quand même faire les mises à jour de sécurité dessus. C'est pas mal. Hein. C'est moi, je depuis surtout. Alors, le truc, c'est que je vous conseille vraiment d'acheter des packs de batterie avec. Et ça, il va falloir faire vite parce que je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont sortis. Le produit est devenu très intéressant avec son caisson étanche, ses packs de batterie, son truc qui permet de le brancher sur un USB directement. Ils feront pas de mise à jour. Ils feront des mises à jour de sécurité, mais le produit n'évoluera plus. Donc, je le conseille vraiment pas à un débutant. Quelqu'un qui s'y connaît en photo ou qui veut un collector, ouais, peut-être. Les packs de batterie sont introuvables, ouais. Déjà, ça rend nos produits déjà beaucoup moins intéressants. Honnêtement, pour moi, c'était son plus gros défaut, la batterie. Et avec les packs de batterie, c'est franchement bien, quoi. Les derniers bons photophones sont si bons? Non. Non, on parle pas du tout ni de la même qualité optique, ni de la même taille de capteur. C'était un vrai capteur d'un pouce et avec un objectif équivalent 35 mm ou 34 mm, je ne sais plus, d'une bien meilleure qualité optique. Donc, ça n'avait pas grand-chose à voir avec des photos de smartphone, même de smartphone actuel. Franchement, hein, je allais revoir mon test où j'avais comparé des photos de smartphone. Le soft ne deviendra pas open source. Ça m'étonnerait. Tu sais, ça peut poser beaucoup de problèmes à DxO One de laisser le truc sur le marché ou en open source. Non, c'était un très bon produit, mais moi, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Le problème, c'est que c'était un produit intéressant pour les gens qui s'y connaissent en photo. Or, son form factor, on avait l'impression que c'était un truc pour débutants photo. Mais un débutant photo était complètement paumé avec le DxO One. Il fallait vraiment s'y connaître en réglage et tout ça pour l'utiliser correctement, quoi. Bref, je préfère pas vous le conseiller, sauf si vous êtes un collectionneur. Effectivement, les nouvelles versions, on peut le plus facilement... Enfin, moi, je l'avais utilisé à Venise, j'avais pas de batterie à l'époque. Il vous suffit de prendre une batterie externe et de le recharger pendant le déjeuner. Mais la batterie ne tenait même pas une journée. Hein. Je faisais une matinée de quelques photos et la batterie était morte. Donc, je vous mets en garde contre ça. Hein. C'est tout petit, mais il n'y a pas beaucoup de batterie, quoi. Bah écoute, collectionneur, je ne sais pas si c'est... Mais c'est quand même une tentative française de revenir dans le monde de la photo au niveau hardware. Je vous rappelle que la France a été un grand pays de constructeurs photo à une époque. Que DxO One, c'était intéressant parce que c'était un retour des Français... dans l'industrie photo et de l'industrie du hardware photo, ça a capoté. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas pu sortir une version 2. Ils avaient compris énormément de choses. Moi, je les avais vus au salon de la photo. On avait beaucoup parlé de ce que pourrait être une version 2, notamment en vidéo et tout. Ils avaient le potentiel pour faire un truc, mais vraiment killer en vidéo. Il suffisait d'ajouter de la stabilisation, une prise micro. Et ça vous aurait fait une petite caméra de vlog, plus besoin d'avoir un bras comme ça avec son GorillaPod et tout. Enfin bon, il y avait un potentiel énorme, mais hélas, ça n'arrivera pas. Peut-être que quelqu'un d'autre ou des Chinois s'empareront de l'idée et sortiront des produits aussi intéressants. Moi, j'aimais bien. Je suis pas chauvin du tout, mais je trouve ça bien que voilà, il y ait des entreprises françaises qui aient des couilles. de se lancer sur des marchés difficiles comme ça. Donc même si ça se termine par un retrait, ça a été une belle aventure. On ne peut que remercier et tirer notre chapeau à Eric Zero. Et ça me donne envie de leur faire un tweet de remerciement. Tiens, je leur fais un tweet de remerciement pour le DxOne. Moi, en tout cas. Allez, il est 9h01. C'est la fin de l'émission. Hein, je vous ai pris de court. Hein. Vous pensiez que j'avais encore plein d'articles et que j'allais être en retard. Eh bien non. C'est la fin de ce Techscope. Mais vous savez que ça se termine jamais et qu'en France, tout se termine par, non pas des chansons, mais des questions. Donc, pas de questions Platinium ce matin. On va pouvoir enchaîner directement. Si vous avez des questions, notamment sur le DxOne ou sur n'importe quel autre sujet, je suis maintenant à vous, entièrement à vous, on va dire pendant 8 minutes, pour répondre à vos questions. Existe-t-il un logiciel management de photos pour particuliers, photos, famille, vacances, avec organisation, backup, partage, cross-platform, simple retour si nécessaire, pour un bon prix? J'ai eu très peur que tu dises gratuit, Clément. Que te conseiller? Ça dépend si tu t'y Honnêtement, je trouve que photos d'Apple... Mais bon, le truc, c'est qu'il faut être équipé Apple, va plutôt dans le bon sens en ce moment. J'en suis assez content. Après, t'as Google Photos, mais bon, il faut être prêt à donner tes photos à Google. Après, je sais pas. Tu trouves où tes tasses? Je suis fan. Bah, c'est justement des fans qui me les offrent. Enfin, il y en a certaines que j'ai achetées moi-même. Tu trouves ça sur Amazon. Pour beaucoup. Tu joues encore à Star Wars Galaxy of Heroes ou non? Non, je l'ai lâché depuis longtemps. Ces jeux-là, addictifs, ramasse tes asperges magiques. Mon premier, il y avait des asperges magiques. Enfin, les jeux de à la Farmville, là. En fait, j'arrête assez vite parce que c'est un temps tellement perdu et mon temps est tellement précieux que j'en ai pas retouché depuis. En fait, j'y jouais à l'époque où j'étais retourné travailler en entreprise parce que c'était des bons jeux de réunion, comme j'appelais ça. Un iPhone qui fait des photos correcteurs pour mon taf, je suis tatoueur. C'est quoi une photo? Ah, des photos correctes. Un smartphone qui fait des photos correctes. Tout dépend ce que tu entends une photo correcte. Tu veux des photos correctes des tatouages que tu fais des gens? Est-ce que l'endroit où tu tatoues est obscur ou bien éclairé? Parce que si c'est bien éclairé, à la limite, même un smartphone à 200€ te fera la photo que tu veux. Mais il faut plus mettre l'argent dans l'éclairage que dans ton smartphone. Par exemple. Des jeux qui te plaisent au niveau annonce E3. J'avoue que j'ai vraiment pas regardé les annonces de E3, Paladin. J'ai pas eu le temps. Hier, j'ai fait des travaux dans l'atelier jusqu'à à peu près 22h. Et puis, je suis rentré travailler jusqu'à 23h30. Et toute la journée, j'ai travaillé. Donc, j'ai pas regardé du tout les annonces. Et j'avoue qu'en préparant le Techscope, je me suis dit, est-ce que je fais les annonces? Et à ce moment-là, je me mets au courant. Et ça aurait été trop long en préparation. Bah, si c'est bien éclairé, honnêtement, même un mauvais smartphone ne te rattrapera pas la photo. Si c'est juste une photo documentaire que tu veux du tatouage, après, si tu veux une photo esthétique du tatouage, pour voir des photos de tatouage, parce que Marion est abonné à beaucoup de comptes de tatoueurs. Les plus belles photos sont effectivement noir et blanc, qui jouent beaucoup sur le clair-obscur. Et ça, pour le clair-obscur, c'est pas un smartphone qui va t'aider, c'est un appareil plutôt hybride ou réflexe avec un système de flash. Alors, tu peux faire des clairs-obscurs avec un smartphone, mais du coup, si t'envoies du flash direct, t'auras pas un clair-obscur, quoi. Un logiciel gratuit pour coder en Apple ProRes pour Mac. Apple ProRes, pourquoi coder du Apple Pro? Non, je connais pas. Je connais l'Apple ProRes en vidéo, mais est-ce qu'on code de l'Apple ProRes? Je sais pas. Ton avis sur la 5G, tes espérances pour le déploiement? Écoute, moi, je vais dire la phrase que je dis tout le temps. Si déjà, ils me remettaient au moins de la 3G dans le métro parisien, je serais content. Donc, la 5G, c'est bien, mais mettez-nous déjà au moins de la 3G de partout. Si je pouvais décider où les investissements allaient, j'irais pas sur la 5G, mais j'irais sur 3G au moins partout. Voire 4G partout, ça serait encore mieux. Merci beaucoup pour ton super chat. Eh bien, écoute, j'espère t'avoir un peu aidé pour le conseil. Fais des essais, mais honnêtement, c'est encore une fois, hein, surtout avec la photo smartphone, c'est la lumière qui va faire ta photo. Donc pour ton tatouage, essaye plutôt de prendre de la lumière, de l'orienter en rasant sur le bras ou ce genre de choses. C'est pas le smartphone qui va faire ta photo. C'est ton cadrage, c'est ta lumière. Que faut-il au minimum dans son ordi Mac pour éditer de la 4K avec assez de confort sur Final Cut? Écoute, d'abord, il y a plusieurs 4K qui existent. Ça dépend. Il y a des 4K qui sont plus faciles à travailler que d'autres. Plus, en gros, un fichier vidéo, plus il est gros, moins il va être compressé, plus il sera facile à travailler en montage. Donc, tu peux travailler même avec un petit Mac sur de la 4K, mais à ce moment-là, il faudra que tu prennes du temps, genre la nuit, pour qu'il te calcule, par exemple, des proxys. Tu peux très bien travailler en proxy, ça va être des fichiers basse def pour faire ton montage sur ton ordi, parce que tu n'as pas besoin de la 4K pour monter, et qui au moment derrière du transcodage va aller chercher les fichiers 4K pour te fournir la qualité que tu voulais. Bon, après, les trucs les plus importants, c'est vitesse du disque dur, RAM, et bien sûr processeur et carte graphique. Donc aujourd'hui, pour bosser de la 4K, je dis qu'il faut au moins des Mac qui datent 2015-2016. Si tu parles de Mac, hein. Après, en PC, je m'y connais plus en processeur, je pourrais pas te conseiller en truc, quoi. C'est le moment de sortir à Toulouse. Mais Toulouse, putain, vous avez de la chance, quoi. Tu penses quoi du Honor View 10? Rien, je ne l'ai pas testé, donc j'en pense pas grand-chose. Un bon micro pour de la vidéo en voix off. Merci de me préciser, parce que des micros, c'est comme des objectifs, ça dépend complètement des voix que tu veux prendre. Ça dépend de ton budget. Je ne suis pas un spécialiste des micros type radio et tout. Celui que beaucoup utilisent, c'est le Yeti, qui donne des résultats satisfaisants, pas transcendants, mais satisfaisant, puis il est assez joli, assez facile à utiliser. Moi là en ce moment, je suis en train de tester le Spark de chez Blue. Donc en fait, le mieux, c'est que tu regardes qu'est-ce qu'il y a de bon comme micro radio, en fait, pour faire des voix off. Faut-il un Iguane pour étalonner la lumière? Et un bon photographe a toujours un Iguane dans son sac pour voir si l'Iguane est sur X. Mais ça, les vrais savent de quoi je parle. Le Rode Vidéo Micro, ça sert complètement à autre chose, le tutoriel. T'es en train de donner un mauvais conseil. C'est absolument pas un bon micro pour faire de la voix off. C'est un micro canon pour utiliser en extérieur le vidéo micro. Tu peux l'utiliser pour faire ta voix off en le mettant au-dessus de ta tête, mais en termes de prix, en termes de... Si tu veux faire que des voix off, t'as bien meilleur en micro au même prix, quoi. Tu conseilles quoi comme smartphone vers les 200 euros pour une personne âgée qui a un iPad entre 5 et 5,5 pouces? Peut-être un iPhone SE. Ils sont à 200 euros maintenant, que ça aille avec son iPad, justement. Mais c'est les seuls Apple que tu vas trouver à 200 euros. Ou alors, il faut trouver des occasions pas mal. Pour toi, la 4K du Canon M50 est vraiment inutilisable pour YouTube. Le problème n'est pas de YouTube, Serge. Bonjour, d'ailleurs. En fait, la 4K de Canon, elle est bonne. Enfin, bon, après, il y a un problème de codec, mais je vais pas rentrer là-dedans. Le problème n'est pas un problème de fichier. Le problème, c'est un problème de crop. C'est-à-dire que pour faire de la 4K, le M50 taille tellement dans le capteur que tu as un crop factor, je crois, de 2,8 ou quoi que ce soit. Ce qui veut dire que quand tu vas utiliser, tu pourras pas faire du grand angle 4K. Donc, par exemple, pour faire du vlog, il te faudra un bras deux fois plus long. Tu pourras pas avoir des grands angles qui te permettront d'avoir ton visage en vlog en 4K. Le problème également, c'est que l'autofocus se désactive dès qu'il passe en 4K. Donc, tu peux pas te filmer avec un autofocus. L'autofocus, il y a un autofocus, mais dégueulasse, pire que celui de Pana, quand tu passes en 4K. Il y avait une troisième limitation de la 4K sur ce Canon, mais je sais plus laquelle c'est. Donc, en fait, le problème n'est pas la qualité de l'image que tu vas avoir, mais plus des questions d'ergonomie pour faire de la 4K. C'est pour ça que je dis que le M50 est un très bon appareil photo en 1080, une très bonne caméra en 1080, mais pas pour la 4K. Micro-cravate, je le conseille pas pour les voix off, parce que tu as trop de risques de frottement. Le micro-cravate, c'est vraiment à utiliser quand tu es dans un environnement contrôlé où tu ne veux pas que les micros apparaissent et où tu peux pas percher le son avec un micro canon. Donc finalement, tout le monde veut des micro-cravates parce que genre, ça fait pro. Mais le micro-cravate, c'est moi aussi, hein, j'en utilise. Mais c'est dangereux, le micro-cravate. Vous risquez beaucoup plus des frottements de vêtements sur un micro-cravate que... Et si le but, c'est uniquement de faire de la voix off, il vaut mieux la faire avec un micro, un vrai micro qui vient devant la bouche, quoi. Dans un meilleur son. Le micro-cravate, ça va, vous voyez, comme ça, moi, vous m'entendez d'une qualité. Mais attention, un micro-cravate, la plupart des micro-cravates n'empêchent pas les sons de l'extérieur. C'est des omnidirectionnels. Donc, ça chope tout ce qui se passe dans la pièce. Les micro-cravates n'isolent pas. Retenez bien ça. Il y a des micro-cravates cardioïdes qui existent. À la télé, vous les voyez. Journal de 20h est fait avec des micro-cravates cardioïdes. Mais vous n'avez jamais remarqué, ils en ont deux. Vous savez pourquoi? Parce qu'un cardioïde qui va isoler donc la voix, c'est tellement sensible et ça fait une bulle de son. Si vous tournez la tête, déjà, là, mon son, il est diminué de deux. Donc, c'est pour ça que le présentateur, il en a sur les deux côtés. Comme ça, même s'il tourne la tête, l'ingé son peut récupérer la voix. Non, mais après, Audran, si t'as un bon micro-cravate, tu peux faire des voix off avec. Mais quand je vois que certains me disent « Ah, mon micro-cravate, je l'ai mis au bout d'une perche, et comme ça, je peux choper la voix de mes acteurs avec. » Pourquoi pas si t'as oublié tes autres micros? Moi, je suis très pour le bricolage. Mais un micro, c'est comme un objectif. T'as pas un objectif qui fait tout. Il n'y a pas de micro qui font tout. À chaque prise de voix, à chaque situation, son type de micro. Il est 9h15. Mais ouais, mais vous me branchez sur des trucs aussi. Je peux plus m'arrêter. Merci Samuel de me rappeler à l'ordre. On va arrêter là pour les questions. Si vous en avez d'autres, normalement demain, c'est Marion qui vous présente le Techscope. Donc, il faudra poser les questions à Marion. Et demain, le type de micro que j'utilise, ça dépend où je tourne. Voilà, demain, Marion et moi, je vous retrouve jeudi. Je vous souhaite une excellente journée à tous et passez une très très bonne journée. À demain, ciao tout le monde.